La Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondé. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Pour ne pas contracter la maladie du sida, il est souvent conseillé de recourir aux moyens de prévention qui sont la bonne fidélité, l'abstinence, le préservatif et l'usage personnel des objets tranchants. Cependant, les acteurs non étatiques évoluant dans le secteur de la lutte contre le VIH-Sida ont découvert d'autres nouvelles stratégies de prévention contre la pandémie du sida. Quelles sont ces stratégies? On en parle avec Dr Yves Machaco, responsable du bureau VIH-Sida Monique Sud Kivu et du Katanga. Il est déjà en ligne. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, nous parlons aujourd'hui des nouvelles stratégies de prévention contre le VIH-Sida. Quelles sont ces stratégies?
Ok. Avant d'aborder les nouvelles stratégies, il serait mieux d'abord de rappeler les stratégies traditionnelles qui semblent n'ont pas beaucoup réussi.
Oui.
C'est-à-dire, connaissant le mode de transmission, c'est-à-dire voie sexuelle par la voie sanguine et de la mère à l'enfant, on peut éviter le VIH-Sida par les méthodes traditionnelles, c'est l'abstinence, la fidélité et les condoms. Mais si on s'arrête seulement à ces volets-là, on a constaté qu'il y a eu des faiblesses dans cette stratégie mondiale et que la plupart des gouvernements africains ont adopté.
Mmh.
Prenons seulement par exemple au niveau de l'abstinence. Nous disons que l'abstinence concerne les jeunes. En fait, l'abstinence, c'est pour des personnes qui n'ont pas encore du rapport sexuel. Et on les encourage à avoir du rapport sexuel lors du mariage. Mais, un exemple simple.
Oui.
Dans nos écoles, dans les gens, où les gens, la jeune fille doit aller à l'université, combien entre à l'université toute année en étant vierge, par exemple? Donc, c'est une stratégie qui a semblé donner des résultats, mais n'est pas très efficace parce que les jeunes ont besoin d'avoir l'information, de parler de la sexualité. Mais en leur disant seulement tout simplement abstinence, c'est tout, mais les jeunes n'ont rien compris. Parlons de la fidélité dans les mariages.
Oui.
Fidélité du couple. Et des études viennent de démontrer, c'est au Kenya, en Zambie et au Cameroun, que parmi les couples qui sont passés au dépistage volontaire,
oui,
en fait, les deux tiers des couples qui sont passés étaient des sérodiscordants, c'est-à-dire un est positif, l'autre est négatif dans les couples. Et on a fait une enquête de ces couples-là, de ces deux tiers. On leur a demandé combien utilisaient les préservatifs lors des derniers rapports sexuels. Seulement 30% ont reconnu avoir utilisé les préservatifs. Donc, ce qui fait que même dans les couples, il y a toujours un des partenaires, surtout la femme, dans les rapports sexuels et dans les couples, est souvent victime, peut attraper le sida. Parce que, une fois dans le couple, il y a toujours peut-être un partenaire qui a aussi une autre partenaire durable et qui va s'engager dans les rapports sexuels sans préservatif. Donc, tout ça, ce sont des risques.
Donc, on peut affirmer que la bonne fidélité, ça marche toujours pas.
Même la bonne fidélité, c'est toujours très très difficile. On n'est pas toujours en mesure de contrôler à 100% son partenaire ou sa partenaire. Donc le risque est toujours là.
Oui.
Parlons de la stratégie et condom. Le condom, effectivement, c'est une stratégie qui a vraiment aidé, par exemple, les pays comme l'Ouganda à lutter contre le VIH. C'est-à-dire, ils avaient des taux autour de 15%, mais actuellement, ils sont autour de 5%. Mais les préservatifs aussi, ils protègent autour de 80%. Les études viennent de le montrer, à 80%. Parce que lors de l'utilisation du préservatif, surtout les préservatifs masculins, on peut avoir peut-être déchiré du préservatif, ainsi de suite.
C'est parce que le préservatif est mal utilisé, peut-être. Les gens n'ont pas l'information sur la manière de bien utiliser.
Effectivement, l'utilisation qui n'est pas toujours correcte du préservatif. Ça, c'est le préservatif masculin seulement. Alors, il a aussi rencontré les faiblesses, notamment les barrières religieuses et culturelles, surtout dans le contexte africain. Donc, ce qui fait aussi qu'il a été démontré seulement 20% des gens ont utilisé le préservatif. Et il n'est pas toujours disponible dans nos milieux africains. L'autre stratégie étant l'utilisation du préservatif féminin. Ça semblait donner de l'espoir. Surtout la femme, à ce moment-là, la femme est responsable, elle prend acte lors du rapport sexuel, elle contrôle la sexualité. Donc, ce qui fait que c'est une très bonne stratégie. Mais malheureusement, ce préservatif n'est toujours pas disponible et coûte 10 fois plus cher que le préservatif masculin.
Oui.
Et aussi, dans d'autres constats, on a constaté par exemple, l'avant la plus prépondérante pour attraper le VIH, ici chez nous en Afrique, c'est toujours les rapports sexuels et la transmission mère à l'enfant. Mais dans d'autres pays comme l'Amérique latine, l'avant la plus prépondérante pour attraper le VIH, ce sont les rapports homosexuels.
Oui.
Donc la population la plus infectée, ce sont les rapports homosexuels. Ailleurs, comme en Asie, ce sont les drogues. Donc, on a trouvé, par exemple, en Chine, en 2006, que 50% des personnes avec le VIH,
oui,
ce sont des usagers de drogue. Donc, aussi, par rapport à la voie sanguine de transmission, nous devons mettre plus l'accent sur comment utiliser correctement, donc, sécurisation des injections. C'est très, très capital. Les stratégies vont changer en fonction des modes de transmission le plus pondérant dans le pays.
Alors
tout
oui.
Ça, comme
alors,
problème.
Oui, docteur Yves, oui. On peut dire que tous ces modes, les modes de prévention traditionnels ont été passés en revue, et puis des conclusions sont que ces modes n'ont pas apporté des résultats satisfaisants comme attendu. Alors, c'est ainsi que il y a d'autres stratégies qui viennent d'être élaborées pour pouvoir faire face à la pandémie du VIH/SIDA.
Ok. Alors, ces stratégies-là, si rapidement nous pouvons les énumérer.
Oui, allez-y.
C'est d'abord renforcer le dépistage. Jusque là, chez nous, surtout dans notre pays, le dépistage est toujours encore volontaire. Mais on ne va pas arriver à l'accès universel tant que tout le monde puisse connaître son état sérologique. Dans d'autres pays, les nouvelles stratégies que l'OMS préconise maintenant, c'est la stratégie, comme on dit, opt-out. C'est-à-dire, tous celui qui se présente à l'hôpital doit être systématiquement dépisté, à moins qu'il y ait un refus écrit systématique par la personne qui est venue se faire dépister. Et c'est la même chose dans le cas même de TTM.
Alors, vous voulez dire que le dépistage doit devenir obligatoire?
C'est ça la nouvelle politique que préconise l'OMS et les Nations Unies. Pas obligatoire, il doit être systématique et il ne doit pas être comme un service à part dans nos systèmes de santé. Ça doit être un service de routine. Quand on veut faire l'hémoglobine et qu'on sort, quand vous venez, prise de sang, on fait aussi les tests de dépistage. Parce que c'est à ce moment-là qu'on aura le nombre de toutes les personnes avec le VIH et automatiquement, on peut démarrer les traitements. C'est un programme vaste, il y a un coût à investir là-dedans, mais ça c'est parmi la première stratégie qu'il faut et qui est préconisée.
Ok.
Bon, au niveau de chez l'homme, voilà, il vient d'être prouvé, et les études ont montré que la circoncision protège l'homme à 60% des infections liées au VIH et aux IST. Donc c'est, maintenant il y a des vastes programmes à travers des pays qui ont mis de l'argent pour circonciser systématiquement tout le monde, parce que c'est les études viennent de prouver cela.
Est-ce que dans notre pays, des hommes incirconcis peuvent être au nombre de combien? Est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça?
Bon, la culture normalement congolaise, d'habitude, je sais que presque après la naissance, presque tout le monde, à 80%, je pense, on est circoncis. Mais il y a d'autres pays en Afrique. Par exemple, l'Ouganda vient de prendre cette stratégie et on a compris que maintenant, à 60%, on est protégé. Mais à part cela, chez les femmes, par exemple, il y a une autre stratégie qui va être finalisée dans quelques mois, je pense, avant juillet.
Oui.
Il vient d'être prouvé que la femme peut utiliser des gels où il y a base d'ARV, le tenofovir, par exemple, qui est dans le gel, avant l'acte sexuel. La dame prend le gel ou une crème, elle met au niveau vaginal, elle fait les rapports sexuels, et là, elle peut être épargnée d'attraper le VIH.
Et le gel, c'est un spermicide?
Non. Ici, c'est un microbicide. Lui, il ne tue pas les spermes,
oui,
mais il tue seulement les microbes. Donc, c'est un microbicide qui va être mis sur le marché d'ici là. Et à part cela, il y a aussi la stratégie de la prévention positive. On a constaté que pendant tout ce temps, nous faisons la lutte contre le sida, mais la personne va avec le VIH n'est pas au centre de ça. Donc, et pourtant, on sait que quand la personne connaît son statut sérologique et qu'il est séropositif, et qu'il ne propage pas le virus, lui-même étant acteur, donc ça va contribuer à la réduction de la transmission du VIH au sein de la population générale. Et autre stratégie, c'est la prophylaxie pré-expositionnelle. C'est-à-dire quoi? Prophylaxie, c'est la prévention. Prévention avant l'exposition. L'exposition au virus. Mais c'est une stratégie qui est butée aux problèmes d'éthique. Aux problèmes d'éthique. Déjà, nous n'avons pas les ARV pour les personnes qui sont éligibles aux ARV dans nos pays à ressources limitées. Bon, est-ce qu'on va mettre les ARV? Par exemple, si quelqu'un va, il a un rapport sexuel avec une professionnelle de sexe, une pile de préservatif, on lui remet les ARV. Bon, il prend les ARV avant de commettre l'acte. Est-ce que ça sera possible? Mais ailleurs, c'est pratique. Bon, nous devons renforcer aussi la prophylaxie après l'exposition, c'est-à-dire pour les personnels soignants en cas de viol et violence sexuelle, il y a toujours des traitements qui existent pour que la personne ne devienne pas séropositive. Et enfin, il y a, depuis septembre 2009, il y a l'étude de RV144 qui a prouvé qu'il y a maintenant un vaccin qui a montré son efficacité, mais c'est encore très limité. L'efficacité a été à 31,2%. C'est en Thaïlande qu'on a testé le vaccin sur 16 000 personnes volontaires qui sont négatifs et à qui on a administré le vaccin. On a constaté que 30% de ces personnes n'ont pas contracté le virus. Et le vaccin, candidat vaccin, il s'appelle les Alvac HIV et AIDS-Vax. Donc ce sont des pistes de solutions qui sont là.
Voilà, autant de pistes de solutions pour lutter contre le VIH-SIDA. Vous avez des questions, des réactions, composez le 081-890-6394. Nous avons déjà en ligne Baudouin Mutanda depuis Kolwezi. Il va intervenir juste après ceci.
Réponse à vos réactions, questions et sujétions avec l'invité de Capu Charlie.
Baudouin, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui Daniel Kachama, bonjour aussi à notre invité. Je voudrais poser la question, je l'ai suivi tout à l'heure, je viens de dire que le préservatif féminin coûte plus cher que le préservatif masculin. Qu'est-ce qui fait que le préservatif masculin puisse coûter très cher par rapport au préservatif féminin? Quelle est la forme de ce préservatif féminin? Et puis, qu'est-ce qui fait que chez les homosexuels, le taux de l'infection au VIH est très élevé par rapport aux autres facteurs?
Merci, Baudouin. Docteur Yves Massaco, vous avez la parole.
Bon, effectivement, le préservatif féminin, comme je venais de le dire, il existe. La forme, il est plus gros, il est cylindrique par rapport au préservatif masculin. Mais ce qui fait que il coûte cher, c'est la matière avec laquelle on fabrique ce préservatif-là. Les polyurates. Donc, ça coûte plus cher par rapport au latex par lequel le masculin est fabriqué. Donc, ce qui fait que le droit est dans le sens de dire qu'il faut disponibiliser au même pied d'égalité le préservatif féminin et le préservatif masculin. C'est ça. Ça coûte cher par rapport à la fabrication, mais c'est ce qu'il faut arriver à faire. Et aussi, chez les homosexuels, le taux de transmission, il est plus élevé. Pourquoi? Parce que, pour savoir, l'anus, une paroi anale, l'anus n'a pas été préparé avant des rapports sexuels. C'est une muqueuse qui est tout à fait très fragile, et ce qui fait lors des pénétrations intestines, il y a toujours les risques qui est là.
Des blessures.
Et là, vous savez, des blessures vont faire que les virus passent plus rapidement.
Voilà, nous avons en ligne Mavé, il nous appelle de Kananga, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Ivani.
Votre question?
Oui, je voudrais juste poser une question à notre invité du jour. Ça va, est-ce que le préservatif féminin est important que quand on fait le rapport sexuel entre nous, peut-être si on s'est conçoit avec une certaine femme, ça peut plutôt créer des problèmes si le fait de frotter chaque moment, si ça arrive que c'est là, puisse trouver des prostitutions. Est-ce que des problèmes, causer des problèmes au moment des frottements, et puis ça s'est trop quelque part. Ça peut pas aussi poser de problèmes un peu plus graves au niveau de ces points.
Docteur Yves Machako.
Ok, merci pour la question. Ce qu'il faut savoir, le préservatif féminin, il est plus dur par rapport au préservatif masculin. Et l'avantage, c'est quoi? Lorsqu'il est bien introduit dans l'appareil génital de la femme, vous, l'homme, vous ne portez plus votre préservatif masculin. Vous y allez, et ici, l'avantage, ça ne peut pas. Vraiment, c'est tellement dur que ça ne peut pas se déchirer. C'est l'avantage de ce préservatif-là. Donc, de ce côté-là, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude.
Voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude de ces côtés-là. Des questions, des réactions, 081-890-63-94. Alors, docteur Yves Machako, vous avez parlé d'un certain nombre de nouvelles stratégies mises en place pour lutter contre le VIH au-delà des stratégies traditionnelles. Alors, parmi toutes ces stratégies, lesquelles sont déjà d'application dans notre pays?
Oui, parmi ces stratégies, celles qui sont d'application dans notre pays, je peux prendre par exemple, nous avons la prophylaxie post-exposition, ça existe. Nous avons la prévention de la transmission mère-enfant. Cette stratégie existe, mais nous devons l'améliorer parce qu'on a constaté que beaucoup de mamans qui ont transmis le virus à leur enfant, c'est en post-natal, c'est pendant l'allaitement. Donc 40% des transmissions du VIH chez l'enfant, c'est après la naissance. Et malheureusement, il y a cette barrière-là. Lorsque, par exemple, une jeune maman vient accoucher et puis vous lui dites de ne pas allaiter, déjà il y a la pression de la belle-mère qui est là, la belle-famille, comment elle n'allaite pas, ainsi de suite, il y a un problème.
Oui.
Nous devons arriver à changer de mentalité vis-à-vis de cela. Il y a certaines stratégies que nous utilisons, il y a des ASV qui existent, mais il faut savoir que actuellement, il y a de nouvelles molécules qui viennent d'apparaître. On n'a pas encore accès à ça, parce que même les anciennes molécules qui existent, nous n'avons pas suffisamment d'argent pour en procurer à nos personnes avec le VIH. Il y a par exemple aussi, j'ai traduit l'ICOP+, cette organisation des personnes avec le VIH,
oui,
qui fait de tout son mieux aussi à participer dans la lutte contre le VIH-SIDA. Je pense à travers tous les pays, il y a des structures de l'ICOP+, ce sont des initiatives à encourager. Voilà les quelques pistes.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la prévention positive. Donc, je suppose que c'est une personne qui est déjà séropositive, mais qui se garde de transmettre la maladie aux autres. Alors, c'est comment arriver à conscientiser ces personnes pour ne pas le faire? Parce que généralement, on l'a appris quand une personne est séropositive, elle est en bonne santé apparemment. Bon, elle s'est dit, bon, je veux pas mourir seule. Il faut transmettre la maladie à plus de personnes, comme ça nous serons nombreux à mourir.
Et c'est ça même le but de ce genre d'émission. C'est pour que tout le monde soit conscientisé. C'est en donnant d'abord une bonne information.
Oui.
Il faut que la personne vivant avec les gens sache que lorsqu'il va s'engager dans des rapports sexuels à risque, c'est-à-dire sans même préservatif, le risque c'est quoi? C'est d'attraper encore d'autres souches de virus qui sont virulentes.
Oui.
Il va augmenter la quantité de virus dans son sang, donc sa charge virale va augmenter. Ce qui fait que c'est même très mauvais pour cette personne-là. Et aussi, actuellement, on encourage les témoignages. Il y a beaucoup de témoignages sur les personnes avec le VIH, les situations qu'elles ont vécues, ainsi de suite. Et quand il y a des témoignages comme ça, les personnes qui sont encore séro-négatives, ils ont l'information. Et ça, c'est bien quand la personne qui est séro-positive est au centre même de toute la prévention. Et ça, c'est très, très, très encourageant.
Voilà, et docteur, vous avez dit tout à l'heure, la circoncision est aussi l'une des nouvelles stratégies. Alors, pour ces hommes qui ne sont pas circoncis, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Où doivent-ils se rendre pour aller se faire circoncire? Et généralement, c'est quand l'enfant est tout petit qu'il faut le faire, mais quand pour une personne adulte, comment cela va se passer?
Oui, c'est très facile. La personne doit se rendre dans une structure sanitaire, dans un hôpital. Ce service-là existe. On va le faire avec toutes les précautions médicales possibles, parce que c'est un acte médical. Donc, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. C'est question de se rendre à l'hôpital et la personne peut aller. Parce que qu'est-ce qui a été constaté?
Oui.
Lors des rapports sexuels, lorsque cette peau-là, le fœtus, reste et encore là, et c'est une poche qui garde les sécrétions vaginales. Si cette sécrétion vaginale, après la rapport sexuel, est infectée, et le temps d'exposition et au niveau des prépuces et du gland, c'est-à-dire au niveau du pénis, excusez-moi le terme, cela va faire que le virus va entrer facilement. Mais lorsqu'on a enlevé le prépuce là, ça protège à 60%.
Ça protège à 60%. Didier Kibonge est en ligne depuis le Mumbashi, on le retrouve juste après.
Vous êtes jeune et branché? Vous êtes très passionné de tout connaître? Alors, faites le plein d'énergie dans votre émission totale et non. Trop jeune et votre jeune sera décapité tous les jours du lundi au vendredi de 15h à 16h. Totale énergie, c'est l'énergie totale.
Énergie totale, Didier Kibonge de Lubumbashi, bonjour. Ah, c'est Jenny Kalambay est en ligne. Je pense qu'il va, il va aussi s'exprimer avec beaucoup d'énergie. Allez-y.
Ok, merci. Je remercie d'abord l'organisateur de cette émission.
Oui.
Moi, je voulais intervenir parce que c'est un sujet qui est très, très capital. Présentement, je peux vous avouer que moi-même ici, je suis en train de travailler dans une structure belge qui s'occupe des projets ARV. Ils sont plus d'une prophylaxie pour les ARV.
Oui.
Je suis engagé là-bas comme assistant psychosocial. Alors, j'ai constaté que, d'abord, moi-même, je suis personne vivant avec VIH. Ce n'est pas un secret.
Oui.
J'ai beaucoup d'expérience en cette matière. Mais je voulais vous dire une chose. J'ai constaté que pour la plupart des cas, on est en train de marginaliser les personnes vivant avec VIH. Parce que, on ne veut pas les utiliser dans la prévention. Parce que pour moi, plus que toute autre personne, les personnes vivant avec VIH sont capables de mieux faire la prévention. Parce que déjà au départ, quand une personne se connaît en tant que telle, peut facilement faire un effort pour protéger les autres ou son entourage. C'est un peu ça. C'est juste ça ma contribution.
Voilà, merci.
Je voudrais que vous puissiez aussi introduire les personnes qui sont intéressés, parce que pour la plupart des cas, ils sont marginalisés et stigmatisés, ils ne sont pas utilisés.
Merci, Jenny.
C'est parce que moi, je travaille dans la structure comme dans l'accompagnement psychosocial et tout ce que vous connaissez la suite.
Merci pour votre intervention. Docteur Yves. Docteur Yves.
Content. Oui, je suis à Lignon.
Oui, allez-y.
Et je suis tout à fait content et j'appuie ce qu'il vient de dire. On ne va pas arrêter la propagation du VIH-Sida en mettant les personnes séropositives à l'écart, qu'ils demeurent dans la clandestinité. Non. Ils se font qui doivent même être des leaders de la lutte contre le Sida.
Voilà, Didier Kibonge en ligne depuis Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi, je voudrais juste poser une question à notre intervenant là-bas. J'aimerais savoir, parce qu'il venait de dire là, il y a des cas qui se produisent, par exemple, deux personnes qui vivent ensemble dans une même maison, elles sont mariées. Vous verrez, l'une est négative, l'autre est positive. J'aimerais savoir, ça fait dire quoi ça? C'est pourquoi il y en a les autres qui se bafouent de ce problème de VIH-Sida, parce que les autres définissent ça comme une simple intimidation pour décourager les amoureux, parce que des cas comme ça, moi je suis vraiment... Je suis désolé parce que deux personnes vivent ensemble, vous verrez, l'une est positive, l'autre est négative. J'aimerais qu'il m'explique clairement pour que je comprenne normalement ce phénomène-là.
Merci Didier. Docteur Yves.
Ok, merci pour la question. En fait, de façon schématique, sans entrer dans les détails de médecine, le virus, lorsqu'il entre dans l'organisme, il a des cellules cibles. Donc, les globules, dont nous appelons les lymphocytes, CD4 et comme ça, vous avez toujours entendu parler de ça. Alors, pour que le virus pénètre aussi dans ces cellules-là, en fait, de se multiplier, il y a ce qu'on appelle des récepteurs. C'est sous forme d'antennes qui vont reconnaître le virus et le faire entrer à l'intérieur du globule blanc. Il se multiplie et après, il va tuer le globule blanc, ainsi de suite. Il a été constaté qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont cette anomalie au niveau de leurs lymphocytes. Ils n'ont pas ces récepteurs-là, CD4, ce qui fait que quand le virus vient entrer, il meurt sans se multiplier dans ces cellules. Mais attention, ce nombre de personnes à travers le monde, c'est moins d'1% de la population mondiale. Il ne faut pas se dire que moi, je peux y aller sans préservatif, par exemple, dans une relation sexuelle occasionnelle, et tu te dis, bon, moi je suis parmi ces gens-là qui m'attrapent. Mais aussi, on ne sait pas. La personne qui est là, encore en bonne santé, a-t-il eu des rapports sexuels avec sa partenaire qui a le VIH? Nous ne savons pas si on le met dans des conditions de précarité, réfugié par exemple, on le met en prison. Est-ce que ces virus ne peuvent pas s'exprimer? Parce qu'on a vu des gens qui sont en bonne santé, vous les jetez en prison, la tuberculose éclate. Par exemple, est-ce que nous n'allons pas arriver à ce genre de situation? De notre côté, même si vous êtes en relation avec une personne avec le VIH et vous êtes toujours négatif, ce n'est pas le moment de décider de se frotter les mains en disant que vous êtes épargné. Tôt ou tard, ça peut arriver. Voilà, de façon schématique, hein, c'est dans beaucoup de détails.
Moïse Ipa nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
C'est Patrice, je suis à Kinshasa.
Vous êtes à Kinshasa, excusez-nous, allez-y.
Ah, c'est juste par rapport à la nouvelle méthode de dépistage. Je voulais juste savoir auprès de notre invité quels sont les lieux que nous pouvons facilement se rendre pour se faire dépister. Voilà.
Merci, docteur Yvan.
Oui, je sais qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de centres de dépistage. Vous avez l'hôpital général, vous avez Fondation Femmes Plus à Mokongo. Les tests de dépistage sont là et c'est gratuit. Mais ici, ce que nous sommes en train de dire dans cette stratégie, c'est de faire en sorte que dans tous les hôpitaux, tous les centres de santé, qu'il y ait des tests rapides, et lorsque quelqu'un vient, par exemple, pour un paludisme et autre chose, automatiquement, tu sais, on t'informe qu'on va faire le dépistage VIH et tu peux passer par le résultat. C'est cette stratégie. Et en plus, même de cela, nous sommes en train de penser, l'OMS et l'ONU SIDA pensent, de renforcer les dépistages mobiles et les dépistages porte à porte. Vous voyez, dans les services, on peut passer, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on connaîtra combien de personnes vivent avec le VIH et combien de besoins en ARV il y en a. Et aussi, il faut disponibiliser ces ARV. C'est
voilà.
Ça, vers l'accès universel d'ici 2015, nous devons arriver à cet état de choses.
Voilà, nous allons terminer avec la question de Bonio, de Kisangani. Bonjour. Bonio.
Oui, je suis Bonio Bekani de l'Université de Kisangani.
Oui.
J'aimerais savoir, entre les modes récents pour la protection contre le VIH, on a aussi parlé de gel. La femme doit mettre des gels à son vagin pour éliminer les
microbes.
Donc, les microbes, voilà.
Oui.
Est-ce que cela est vérifié vraiment? Parce que, de mon humble avis, je ne sais pas. Ce que je connais, c'est qu'il y a des proportions de sang qui passent dans l'acte sexuel. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vraiment, si cette proportion existait dans les spermatozoïdes, la femme sera vraiment épargnée?
Docteur Yves?
Oui, il faut d'abord savoir que le VIH n'infecte jamais le spermatozoïde ou bien l'ovule. Ça, ce sont des cellules reproductives. Le virus est suspendu dans les sécrétions. Ça, c'est ça de façon brève. Maintenant, les gels qui est en train d'être testé et qui ont donné de très bons résultats, à l'intérieur de ces gels-là, je vous ai dit, on a mis un médicament de type ARV, c'est le tenofovir, mais c'est que même amantoatie. Donc, à lui seul, c'est-à-dire à la seule molécule là, on a vu qu'il peut éliminer le virus à plus de 90% dans les sécrétions vaginales. Donc, ce qui fait que c'est une approche pour celles qui n'ont pas, par exemple, le professionnel de sexe, qui souvent peut-être ne veulent pas utiliser les préservatifs. Donc, c'est une approche où on peut utiliser aussi ce gel-là. Et ça va protéger la femme pour ne pas attraper le VIH.
Docteur Yves Massako, responsable du bureau VIH-SIDA, Monique Sud-Kivu et Katanga, je vous remercie.
Merci aussi et bonne journée.